Première.
Sandra Viscardi.
L'Union syndicale suisse avertit ce matin, elle combattra par tous les moyens une loi que le Parlement pourrait accepter lors de la session d'été qui débute lundi sous la coupole fédérale. Selon l'USS, le texte pourrait permettre de réduire les salaires par voie législative au détriment de milliers de travailleurs dans les branches à bas salaire. En fait, il s'agit de traduire dans la loi la motion adoptée d'un élu du centre. Il demande à ce que, là où elles existent, les conventions collectives de travail étendues l'emportent sur les règles cantonales en matière de salaire minimal. Malgré des pertes constantes depuis 40 ans, le PLR et le PS restent les forces dominantes dans les villes suisses. Ces deux partis comptabilisent toujours le plus de sièges dans les exécutifs et les parlements des villes, mais d'autres formations ont fait leur apparition, réduisant donc leur représentation et l'écart qui les séparait. En fait, selon l'Office fédéral de la statistique, l'an dernier, le PLR représentait 24% des mandats dans les exécutifs communaux, contre 21% pour le PS. Dans les législatives, les deux partis sont à égalité avec 21% des sièges. À Neuchâtel, les nouvelles autorités cantonales sont installées officiellement en ce moment même à la collégiale. Pour s'y rendre ce matin, un cortège a été organisé. Des membres du groupe Vert POP portaient des banderoles en faveur de la Palestine. Et puis les autorités seront ensuite assermentées dans la salle du Grand Conseil. En Roumanie, le candidat d'extrême droite qui a bouleversé la scène politique, Calin Georgescu, annonce son retrait de la vie politique après l'échec à la présidentielle de celui qui lui avait pris son relais dans cette élection. Cette déclaration intervient alors qu'il doit être interrogé dans la journée par des enquêteurs pour reprise de propos fascistes. Le chef politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodic, est à Moscou. C'est son troisième déplacement en Russie depuis qu'il est recherché par la justice de son pays pour attaque contre l'ordre constitutionnel. Il doit participer à une conférence internationale sur la sécurité. Il devrait aussi rencontrer le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu. En route pour Moscou, Milorad Dodic a fait escale hier à Belgrade pour rencontrer le président serbe, Aleksandar Vučić. 4 personnes sont toujours hospitalisées dans un état grave ce matin après qu'une voiture a foncé dans la foule qui célébrait la victoire du club de foot de Liverpool en première division anglaise hier soir, faisant près de 50 blessés. L'un des 4 enfants touchés fait partie de ces blessés graves. Le chauffeur, rappelons-le, a été arrêté, mais il n'a pas encore expliqué son geste. La police exclut la piste terroriste. La ville de Bulle s'apprête à vibrer dès ce soir et pour 6 jours au rythme de la 24e édition de la fête cantonale des musiques fribourgeoises, baptisée Gruetzig. L'événement doit accueillir plus de 3800 musiciens et un public de plus de 25 000 spectateurs. 84 des 92 sociétés affiliées vont participer à l'événement. En hockey sur glace, Zoug, qui reste sur une décevante élimination en quart de finale des playoffs, a engagé un centre expérimenté, Thomas Tatar, un pensionnaire de LHL pendant 14 ans. Il est slovaque et il a signé pour 2 ans. Un dégradé dans notre ciel, le grand bleu du Léman-Vallée, bleu-gris ailleurs, humide aussi encore ce matin le long des versants nord des Alpes, 21 degrés. Il fera beau demain matin du Léman-Vallée, un peu plus gris ailleurs, puis arrivée de nuages et de quelques gouttes avec 22 degrés au thermomètre.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lucerne-Chiasso, le tunnel du Gotthard est fermé dans les deux sens en raison de la panne d'un véhicule. Des bouchons sont en formation aux abords des deux entrées de l'ouvrage.
Voix cristalline ou puissante, voix qui caresse ou qui transperce. Du 4 au 19 juillet au Montreux Jazz Festival, laissez-vous séduire par les plus grandes voix d'artistes légendaires. Parmi les têtes d'affiche, Pulp, Ray, Lionel Richie, Iseult, ou encore Neil Young and the Chrome Hearts. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com.
Le Grand Soir.
Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Tribu, Jérôme Timmerman.
vers une société et une économie durable. C'est la promesse ou l'intention affichée lors de nombreux sommets internationaux qui tentent de mettre à l'agenda toute une série de mesures qui visent à vivre en harmonie avec ce que la planète est en mesure de fournir, le tout en assurant des conditions équitables en matière de chance et de droit. Les obstacles semblent tenaces, les oppositions de plus en plus nombreuses. Bref, le développement durable se heurte à la dure réalité de notre société actuelle, prise en étau entre exigences économiques, écologiques, attentes sociales et perspectives économiques. Bonjour René Longer.
Bonjour.
Bienvenue dans Tribu, vous êtes expert en développement durable. Vous êtes l'auteur de Planète, état d'urgence, les réponses de la durabilité. C'est aux presses polytechniques et universitaires romandes dans la collection Savoir Suisse. René Longer, il y a eu notamment l'ouvrage, déjà en 2016, Planète sauvage, sauvetage en cours, pardon. Donc Planète, état d'urgence, aujourd'hui c'est une réactualisation avec la progression depuis, vous l'expliquez en introduction de l'ouvrage, de deux dynamiques opposées. Quelles sont ces dynamiques ?
Alors tout d'abord, vous aurez remarqué la différence de titre. Je n'ai plus voulu du titre. Voilà, Planète sauvetage en cours, c'était marqué une responsabilité collective. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans l'état d'urgence. On n'ose pas dire que le sauvetage est en cours. On est effectivement dans une polarisation croissante de l'opinion. On voit que depuis 2016, il y a beaucoup de choses positives qui sont passées. Mais à un moment donné, ça s'est ralenti. Maintenant, on est plein d'obstacles. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière édition ? En termes de choses positives, on a beaucoup plus axé sur l'économie. Il y a l'essor de la finance durable. Il y a eu toutes ces manifestations au climat. Donc, on a beaucoup parlé de la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui, lui, d'ailleurs, exige aussi de la finance une orientation vers les solutions aux enjeux climatiques. On a commencé à mettre en œuvre les fameux objectifs de développement durable. Puis, autour de 2020, ça a commencé, avec la pandémie, à donner d'autres thèmes. La pandémie, au début, c'était une inquiétude, on a freiné les activités. Puis après, il y a eu une révolte aussi d'une partie de l'opinion qui n'a plus fait confiance aux autorités, à la science, etc. Le climato-scepticisme était de retour et ça a commencé à plafonner. Puis en 2024, alors depuis 2024, on recule de plus en plus massivement. Mais il y a eu l'élection de Trump aux États-Unis qui... dont la politique est vraiment d'écraser la petite fleur encore fragile de la durabilité. C'est l'éléphant qui écrase tout ça. Il y a le populisme qui monte, qui est radicalement anti-durabilité, anti-écologie, etc. Il y a eu la révolte paysanne. Les paysans, au lieu de revendiquer un juste prix pour la qualité, ça s'est juste transformé en allié de la chimie, en fait. Maintenant, on parle plus du tout d'agriculture. J'allais dire, les subventions sont plus du tout orientées vers l'écologie. C'est beaucoup plus de nouveau le retour au productivisme. Et l'Union européenne, qui avait un pacte vert qui était vraiment très complet, s'aligne sur les États-Unis, ce que je trouve déplorable, parce qu'en fait, on doit quand même montrer la différence. C'est un continent avec 500 millions de personnes. On devrait valoriser ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire une économie qui soit non pas seulement intéressée par la rentabilité financière, mais aussi par une rentabilité écologique et sociale.
René Longer, ça se joue à tous les échelons, hein, parce que vous expliquez aussi que les dirigeants n'ont pas entamé les changements nécessaires, et puis d'autre part, nous sommes trop attachés, on pensait que ça allait changer quelque chose cette période de pandémie, le confinement, mais nous sommes trop attachés à nos modes de consommation.
Alors, c'est vrai que si on parle que d'écologie, on se sent un petit peu impuissant parce qu'on se dit, il y en a d'autres qui polluent plus que moi. Il y a encore des chiffres qui sont sortis récemment qui disent que les 10% les plus riches sont responsables d'au moins 50% de l'effet de serre, etc. Donc, on dit les Américains, les Chinois, les autres n'ont qu'à faire. Donc, on a un peu oublié que chacun des 8 milliards d'êtres humains a sa contribution à apporter au niveau de sa responsabilité, évidemment. Et là, comme on est dans un pays particulièrement, j'allais dire riche et consumériste, on a quelque chose à faire. Il y a une certaine lassitude devant les préconisations individuelles qui sont vues comme des restrictions au lieu d'être vues comme des chances. Et c'est là où je trouve la durabilité amène des solutions, parce que la durabilité se fonde sur les exigences écologiques qui sont une science avant d'être une formation politique. On a un peu confondu les niveaux. Les élus politiques après se positionnent en fonction de ce que la science dit. C'est d'abord une science, on doit respecter cette science. Puis ensuite, on doit donner, avec la durabilité, doit donner des perspectives économiques et sociales positives. On a complètement occulté le fait que Au niveau international, par exemple, l'OIT avait calculé le bilan en termes d'emploi au niveau mondial de la transition vers les énergies renouvelables et la sobriété énergétique et vers l'économie circulaire est vraiment positif en millions d'emplois. Puis au niveau, vous rappelez peut-être qu'en Suisse, il y a peu de temps, on disait il manque 400 000 personnes pour réaliser la transition énergétique, c'est 400 000 emplois. Donc on a beaucoup à gagner en regardant les emplois qu'on crée, des emplois qui font du sens, des emplois qui sont intéressants, des emplois qui construisent l'avenir. Et c'est peut-être ce discours qui a manqué. Donc c'est pour ça que j'appelle mon livre aussi les réponses de la durabilité.
Justement, les objectifs de ce livre, vous n'êtes pas là pour nous dire qu'on fait tout faux et culpabiliser. C'est pas une injonction supplémentaire. Vous l'ajoutez à la longue liste.
Non. Je pense qu'on fait complètement fausse route si on culpabilise les gens. Ça ne sert à rien. On n'est pas là pour juger les personnes. On est tous pris dans notre vie, dans notre société. On doit tous répondre à un certain nombre d'attentes. On est dans une économie qui fait fausse route globalement, mais on est pris dedans. Et donc, il faut des changements structurels. Il faut des changements au niveau politique. Il faut des changements au niveau des lois. Et c'est là où je reviens sur le pacte vert européen. Il y avait vraiment tout qui était prévu. Il y avait même l'interdiction de la déforestation importée, donc des produits qui sont gagnés sur la déforestation en Amazonie, ailleurs, en Afrique, etc. Il y avait le verdissement de la politique agricole. Il y avait aussi une lutte plus forte contre les produits chimiques, etc., qui était enfin un meilleur contrôle des produits chimiques. Tout ça a été détricoté, a été aujourd'hui soit reporté, soit dilué, soit refusé. On discute même, par exemple, de la responsabilité écologique et sociale des entreprises. Ça va peut-être aussi tomber. Donc on est dans une phase où les solutions collectives ne sont menacées de toutes parts. Donc mon appel, c'est de dire les individus doivent faire ce qu'ils peuvent et ce qui leur qu'ils se sentent pas impuissants. Et en même temps, il faut choisir les bonnes personnes au niveau politique pour qu'on détricote pas tout ce qu'on a déjà mis sur pied. La finance durable, ça marche, c'est tout aussi rentable que la pas durable. Simplement, c'est une question aujourd'hui de fixation idéologique et culturelle. Il y a une guerre culturelle qui se passe dans le monde contre la durabilité. Je trouve ça totalement aberrant. C'est comme si on détruisait notre avenir. On est devant des problèmes conséquents dans ce monde, notamment aussi les capacités des nations de se mettre d'accord au niveau multilatéral, parce que le développement durable, c'est d'abord venu des Nations Unies. C'est vraiment, ça doit être mondial. Et si on n'a pas cette plateforme...
Il n'y a pas de frontières en matière de développement.
Ah ben non, en tout cas, la pollution n'a pas de frontières. Les flux financiers non plus, d'ailleurs. Les marchandises, peut-être avec les droits de douane, en auront, mais enfin, circulent quand même. Aucun pays peut être autarcique. Donc il faut arriver à trouver la plateforme qui permet de gérer cela. Et cette plateforme, elle existe. Elle est aussi menacée aujourd'hui. Donc on est dans un phénomène. On parlait beaucoup de l'effondrement écologique. Maintenant, je pense qu'on est devant un effondrement politique qui va accélérer la crise écologique. Et c'est vraiment... c'est le moment de résister à ça, puis de dire halte là, maintenons ces acquis et allons faire par nos gestes individuels, donnons quelque part, j'allais dire, un débouché positif à ceux qui vont les produits, que ce soit financiers ou des produits matériels, qui respectent les critères de la durabilité.
Planète, état d'urgence, ce titre, c'est un constat que vous dressez au début du livre. Je vais juste en passer quelques éléments. On va pas pouvoir évidemment tous les évoquer, mais il y a notamment 735 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. La moitié de la population d'ici 2035 sera en surpoids. Il y a encore 750 millions d'adultes inalphabètes. Plus d'un milliard de personnes vivent dans des taudis. Plus de 2 milliards de personnes privées d'eau en quantité suffisante. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? L'espérance de vie plafonne, plus de la moitié de l'humanité n'a pas accès aux soins de base. Donc voilà des éléments qui expliquent le titre que vous avez choisi pour ce livre. Puis après avoir posé ces constats incomplets, c'est un résumé que je viens de faire, vous prenez votre bâton de pèlerin pour plaider pour ce développement durable. Mais ça peut, développement durable, devenir un terme un peu fourre-tout. On a peut-être perdu la notion de qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc j'aimerais bien qu'on reprécise qu'est-ce qu'on entend par développement durable quand on parle
alors,
de ça aujourd'hui.
Vous avez très bien fait de commencer par montrer les besoins de base qui ne sont pas satisfaits. On est dans un système économique ou dans une philosophie qui pense que les choses vont s'arranger toutes seules. En fait, plus il y a de croissance économique, moins il y aura d'inégalités. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut vraiment réguler l'économie. Et pour moi, le développement durable, c'est d'abord une notion économique. Aujourd'hui, l'économie, elle est fondée sur la vision qu'il faut faire un maximum de bénéfices financiers pour les actionnaires ou pour les banques, etc., qui vous prêtent. Il faut être rentable financièrement. Et la durabilité ou le développement durable postule qu'il faut être rentable financièrement, oui, mais de manière raisonnable, pas abusive, et surtout rentable au niveau écologique et social. C'est-à-dire l'économie, aujourd'hui, elle ignore le fait que pour pouvoir prospérer, elle a besoin que la nature fonctionne. On a besoin d'eau, on a besoin d'air, on a besoin d'un climat qui dérape pas, on a besoin d'énergie. On oublie complètement que la nature a besoin, que l'économie a besoin d'une nature qui fonctionne et que la nature a besoin d'être respectée et entretenue. Donc, très souvent, on nous dit la protection de l'environnement, ça coûte. C'est pas un coût, c'est un investissement dans la base de l'économie. Donc ça, c'est déjà première chose, c'est de se rendre compte que sans écologie, il n'y a pas d'économie. Puis l'autre aspect, c'est l'aspect, la dimension sociale. L'économie, sa légitimité, c'est pas de produire n'importe quoi et de le vendre n'importe comment et de passer à côté des besoins que vous venez de rappeler, qui sont criants dans le monde. Mais c'est de répondre à une échelle, à une hiérarchie des besoins. Et c'est là où on se rend compte, quand on prend la nature et les pauvres dans le monde, ceux qui n'ont pas les moyens financiers, aujourd'hui, ils sont exclus du marché. Donc l'économie, elle sape ses propres bases et elle ignore en fait sa finalité, j'allais dire éthique et fonctionnelle. C'est ça la durabilité, en fait, c'est un concept économique qui doit vraiment changer.
Osmose entre l'économie et la nature et puis la considération de la dimension sociale. Vous écoutez Tribu sur RTS Première. René Langer, vous êtes notre invité jusqu'à 11h30. Auteur de Planète État d'urgence, les réponses de la durabilité aux presses polytechniques et universitaires romandes, c'est la collection Savoir Suisse. Alors quels sont les objectifs du développement durable, l'agenda, comment avance-t-il? On va faire le point sur ces aspects. Le temps d'écouter Louis Chédid, si Madame Nature a les nerfs. C'est une proposition de notre programmateur musical Bastien Arnold. À tout de suite.
Ça swing sur le plancher des vaches, dégueulasse. Le temps qu'il fait, les portes claquent, les volets tremblent, les tuiles dégringolent. On se croirait en novembre, volatile. Quadrupèdes font le gros dos, immobile dans la pinette. Faut dire qu'au niveau météo, tout fout le camp. Depuis quelque temps, des précipitations inédites, inondations historiques pour la fonction publique. EDF, chemin de fer, France Télécom. R-Inter, c'est l'enfer. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. Faut dire tous ces cargos qui dégazent, ces forêts qu'on ratiboise, elle doit trouver sa nase. C'est vrai qu'on la traite comme des rustres, que depuis l'illustre, ça fait une sacrée ardoise. Détergent, hydrocarbures, déchets nucléaires. C'est sûr, ça peut déplaire. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère.
si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons.
À 11h19, on est de retour dans Tribu sur RTS Première avec René Longer qui est expert en développement durable. On parle justement développement durable ce matin. René Longer, auteur de Planète État d'urgence, les réponses de la durabilité aux presses polytechniques et universitaires romandes, collection Savoir Suisse. René Longer, on définissait le développement durable et puis dans l'agenda 2030 qui a été adopté il y a 10 ans maintenant par les Nations Unies, il y a 17 objectifs de développement durable. Ça en fait beaucoup, par quoi on commence?
Alors écoutez, ce qui est très intéressant avec ces objectifs, c'est que c'est deux choses, enfin même trois. La première, c'est une synthèse de tout ce qui s'est décidé, convenu internationalement aux Nations Unies depuis la notion de développement durable a été validée au niveau international, c'est-à-dire en 1992 au fameux sommet de la Terre. Donc ça fait un moment qu'on discute là-dessus. Donc l'agenda 2030 résume tout ça, rassemble tout ça. Donc c'est déjà une performance. Ensuite, deuxième point, c'est que ça nous donne vraiment un aperçu très concret. On se pose la question, c'est quoi la durabilité? Vous avez la réponse. Il y a l'ensemble des contenus qui sont là.
Je peux en prendre juste quelques points, alors peut-être pour les personnes qui se demandent.
Juste encore le troisième point. Alors, troisième point, c'est le côté systémique. Mm-hmm. C'est vraiment, tout est relié. Et c'est ça qui est intéressant quand vous parlez climat, vous parlez éducation, vous parlez santé, vous parlez biodiversité, vous parlez mode de vie, enfin, voilà. Donc, mais... C'est les trois points qui me paraissent très intéressants pour cet agenda.
Je voulais justement dans la foulée illustrer ce que vous étiez en train de dire. Donc il y a point numéro 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde. Point 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire. Je les résume. Point 3, permettre à tous de vivre en bonne santé, promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Point 4, assurer à tous une éducation équitable. On voit un peu la diversité de ces points. Je ne vais pas aller plus loin, je rappelle qu'il y en a 17. Mais vous faites d'ailleurs un topo également un peu plus tard dans le livre, un pointage sur ce qui a le plus avancé dans ces objectifs. Est-ce qu'il y en a qu'on peut mentionner en particulier?
Alors, le premier point qui est vraiment important, c'est qu'il n'y a pas seulement 17 objectifs, c'était tête de chapitre, il y a 169 cibles. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est quand on travaille au niveau des cibles, parce que vous avez parlé du numéro 2, éradiquer la faim, etc. Bon, là, on se rend compte que ce n'est pas que la sécurité alimentaire, c'est aussi le mode de production, c'est vraiment une dimension mondiale. Ça doit parler à tout le monde. Et je trouve que c'est un tour de force d'avoir réuni ces éléments-là. Ce qui avance, je dirais, peut-être plus vite que d'autres, c'est les aspects plus dans le domaine du développement. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'adapter le rythme de croisière de notre économie qui est encore très prédatrice. Et c'est évident que là, on se heurte à des dogmes dont j'ai déjà parlé, de dire que tout va bien quand la rentabilité financière est au rendez-vous, puis on s'occupe pas du reste, etc. Ça ira tout seul avec la croissance et on se rend bien compte que c'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc la volonté de transformer l'économie, elle est pas là. Puis il y a un grand facteur de perturbation qui s'est invité depuis quelques années, c'est les problématiques de désinformation, c'est les problématiques de gouvernance, etc. Parce que vous avez l'ODD numéro 16, l'objectif développement numéro 16, qui parle de paix, qui parle de gouvernance participative, qui parle du droit à l'information, etc. Quand on sait qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité ne vit plus dans des états de droit, quand on sait que les ONG sont interdites en Russie, je parle même pas de la Chine, il n'y en a jamais eu, etc. Donc, on se rend bien compte. Et puis, il y a les mouvements populistes qui montent. On n'a pas encore trouvé de remède à cela. On voit ce qui se passe avec le gouvernement Trump, etc. Donc, il y a des obstacles qui n'étaient pas prévus sur la route et qui, au fond, sont des obstacles institutionnels et sociétaux. Donc, quelque part, il y a maintenant cette espèce d'affrontement entre un programme qui est cohérent, qui est global, qui est inclusif, puis la réalité sociopolitique qui est en phase de réaction. Et alors j'espère que cette phase va pouvoir bientôt se terminer parce que c'est vraiment à contre-fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, par exemple, vous avez l'objectif aussi d'égalité homme-femme qui est dedans. Et c'est sûr que quand on pense à l'Afghanistan ou d'autres pays, on est à milieu, mais en même temps, ça donne de l'espoir parce qu'on voit la légitimité internationale, elle est vraiment dans l'agenda 2030, elle est là. J'aime pas trop ce compte à rebours. On dit qu'il faut tout réussir jusqu'en 2030. Ça n'est pas possible. C'est les contenus qui nous importent. Et de dire que là-dedans, vous trouvez tout ce qui a été convenu aux Nations Unies sur les enjeux de développement, c'est-à-dire les écarts d'accès au minimum vital. Et de l'autre côté, les enjeux de l'environnement, c'est-à-dire la capacité de la nature à soutenir l'économie. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'est un bilan assez fragile parce qu'il y a des forces contraires qui s'affirment. Mais c'est pas un problème technique, c'est pas un problème de savoir-faire. On sait vraiment faire des produits durables à peu près dans tous les secteurs économiques. C'est maintenant au niveau de la tête, de l'esprit, des aspirations que ça change. Et voilà, on doit vraiment prendre conscience dans la population aussi que si le système multilatéral explose et quelque part l'OMS, la FAO, etc. sont fragilisés parce qu'il y a beaucoup d'États qui n'y croient plus, etc. On n'aura plus cette plateforme qui nous permet d'avoir un effort mondial. Et quand on n'a pas un effort mondial, il y aura toujours une excuse pour dire il y a l'autre qui pollue, pourquoi je ferais quelque chose. Donc c'est vraiment essentiel. Et là, c'est l'opinion publique aussi qui doit se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir? On prend comme contrainte quelque chose qui est un espoir. Et ça, pour moi, c'est le cri du cœur un peu de ce livre aussi, de dire, mais revenons à la raison, revenons à notre avenir, pensons à notre avenir. Et on a, c'est comme une partition parfaite, mais il manque les musiciens un peu. Il n'y a pas assez de musiciens aujourd'hui. C'est comme ça que je qualifierais l'agenda 2030. Puis je dirais encore un dernier mot, c'est qu'il y a des gens qui l'appliquent. Avec bonne volonté, mais un peu comme une checklist sans âme. Alors, ça sert à rien de faire une checklist si on n'a pas derrière l'état d'esprit qui est celui de la durabilité.
Dans les perspectives d'avenir, vous l'avez déjà évoqué auparavant dans l'émission, introduit cette notion d'emploi aussi, secteur économique qui doit bouger. Ben justement, venons-en à cet aspect. Alors c'est peut-être juste une perspective un peu plus positive que les discours culpabilisants dont vous parliez également.
Et qui ne sont pas du tout mon propos. Hein, donc.
Quels sont ces emplois? Vous pouvez nous donner des exemples? Quelles sont les opportunités qui peuvent se créer?
Alors, je vous donne déjà un exemple, puisqu'on a déjà évoqué les États-Unis. Il y a aujourd'hui aux États-Unis, un million de personnes qui vivent des énergies renouvelables. Il y a 42 000 personnes qui gagnent leur vie dans l'extraction du charbon. Donc ça montre bien 24 fois plus de gens aujourd'hui. Puis on est en train de démanteler ces énergies renouvelables, on ne veut plus les développer, c'est totalement aberrant. Donc il y a vraiment une perspective positive. Et il y a aussi l'économie circulaire. Alors aujourd'hui, on a fait en sorte que, évidemment, avec cet regard sur la rationalisation abusive, sur le bénéfice purement financier, on a supprimé beaucoup de capacités, par exemple, de réparer des objets. Hein. Mmh. On vous incite à l'obsolescence. Cette obsolescence, elle date d'il y a un siècle déjà, parce qu'il y a une histoire assez intéressante des ampoules électriques qui pouvaient être beaucoup plus durables et qu'on a exprès fragilisées pour qu'on doive les racheter. Le filament, il se brisait après tant d'heures d'utilisation. Oui. Et ça a été artificiel. Donc, une partie de notre évolution technologique est fondée sur le raccourcissement artificiel de la durée de vie. Il suffit de penser à nos smartphones, nos ordinateurs. Il y a toujours des nouveaux programmes. Il faut racheter n'importe quel appareil aujourd'hui devrait être conçu pour être réparable et pour être recyclable. Or, il y a tellement de matériaux composites, on n'arrive pas à les recycler. La réparation coûte souvent plus cher quand elle est possible. Et c'est là où on créerait beaucoup d'emplois. On recréerait des emplois à des métiers qui ont disparu. Alors évidemment, la question, c'est aujourd'hui, pourquoi ces métiers ont disparu? Parce que le travail humain coûte plus cher que l'énergie, etc. Et donc, il est possible qu'il y ait un certain renchérissement. Et c'est là où on doit se poser la question, comment rendre accessible, c'est comme pour les produits agricoles de qualité, ça va être un peu plus cher que le nivellement par le bas, c'est arrêter ce nivellement par le bas et se dire, on veut de la qualité. Et après, il y a une partie des gens qui ne pourront pas se payer. Une partie, parce que certains pourraient très bien, mais ils ont une excuse. Mais il y a une partie qui ne pourront pas. Donc là, il y a des mécanismes de subvention à la consommation, à mon avis, qui doivent être installés. On subventionne beaucoup la production, notamment en agriculture. On subventionne très peu le consommateur pour faire des achats intelligents. Et là, c'est une dimension politique qui doit être abordée, parce que ça ne doit pas être un obstacle. Il ne faut pas faire pression sur les métiers pour que ce soit les métiers qui payent finalement l'inégalité sociale, quoi. Et du coup, c'est vraiment une réflexion politique à voir, comment est-ce qu'on généralise l'accès à des produits durables.
Voilà, des opportunités dans les secteurs, vous l'avez dit, recyclage, l'économie circulaire, et puis bien sûr les nouvelles énergies. Bah, merci beaucoup, René Longer. On arrive, ça passe vite, hein, déjà au terme de cette émission. Et donc, je rappelle votre livre « Planète, état d'urgence, les réponses de la durabilité » aux presses polytechniques et universitaires romandes dans la collection Savoir Suisse. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et excellente journée à vous.
Mais à vous aussi, merci beaucoup.
Merci également à Mathias Brunimann pour la réalisation de cette émission. Merci à Héloïse Nussbaum, qui est notre attachée de production. Et puis, on revient demain dans Tribu, dès 11h. On parlera des transfuges de sexe au même titre qu'un changement de territoire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de RTS Première. On cède la place au Decoder. À nouveau, bonne journée.
Tribu, Jérôme Timmermann. Du 30 août au 14 septembre, le Valais devient le terrain de jeu des meilleurs VTTistes de la planète. Les championnats du monde Mountain Bike UCI 2025 prennent place dans 8 destinations valaisannes. Adrénaline, vitesse, parcours spectaculaire et ambiance survoltée. Venez vivre l'euphorie au cœur de l'action. Plus d'informations sur valais2025.ch. Retrouvez l'événement en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans les Decodeurs. La précarité a un visage, la solidarité aussi. C'est un des slogans du Centre Social Protestant. Ce visage, c'est le vôtre, donateur et donatrice tout au long de l'année pour les associations caritatives. Et ce visage, c'est aussi celui des gens qui travaillent pour aider les personnes en situation de précarité. Un des visages de la solidarité, c'est donc forcément celui de notre invité. Il est directeur du CSP Genève. Un homme passionné est avec nous toute la semaine. Son nom, c'est Alain Boll. Public en forme. L'assiette et le couvert sont partagés cette semaine avec un quatuor aussi harmonieux que poilant, puisque nous avons à la table un certain Thierry Remanant.
Bonjour. Bonjour Fantin.
Bonjour mon cher. Pascal Vincent est là.
Oh là là, je l'adore.
Mais voilà, t'es pas Julie Conti.
Oh là là, bonjour tout le monde.
Format. Oui, Format. Oh
là là. Bonjour Plan les Watts. Ouais.
Toute cette belle équipe accueille donc le directeur du Centre Social Protestant de Genève, le CSP. C'est plus de 15 millions de francs de budget, me disait-il, dont un seul million et demi seulement, issu des fonds publics.
Wow.
J'ai essayé d'influencer votre réaction, ça a pas mal marché. Donc, le travail de recherche de fonds ici, il est démentiel. Les dons sont extrêmement précieux. Et ce qui aide aussi, ce sont les bénéfices que permettent les 5 magasins de seconde main et les 2 brocantes de la Renfile. Nous sommes dans l'une des 2. La Renfile qui nous accueille toute la semaine. Route de la Galèse 17, c'est à Plan-les-Ouates. Pourquoi nous accueille? Eh bien parce que le 19 juin, il y aura en ces murs un défilé de mode spécial seconde main et surtout spécial création de l'atelier couture du CSP Genève. 10 mois de boulot pour en arriver là. Alain, on s'en doute pas forcément de prime abord, mais pour le CSP, en fait, ce secteur vente brocante, c'est un pan vraiment important.
Ouais, c'est essentiel. C'est plus de 4,5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est une contribution par ses bénéfices au fonctionnement des services. C'est un régime d'économie circulaire qui a du sens aujourd'hui. La seconde main, elle a démarré il y a très 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 longtemps. Alors je suis en train de me dire, tout en vous parlant, que je vais livrer un de mes défis de tout à l'heure. Donc non.
Très bon réflexe.
Je ne craquerai pas.
Très bon réflexe.
Et puis la seconde main, c'est aussi l'occasion de transformer des meubles, de transformer des objets, de pouvoir meubler des lieux différents. L'année dernière, on a été sollicité par un lieu de logement universitaire qui nous a mandaté pour que on amène ces meubles transformés et puis qu'on meuble les espaces communs. C'était une expérience extrêmement valorisante pour celles et ceux qui l'ont réalisé. Et puis, ben, c'est aussi un service à la population. Plutôt que de jeter, il vaut mieux récupérer.
Ben oui.
Alors, c'est parfois difficile parce qu'il y a des embouteillages. Les gens ont de la peine à comprendre que les fins de mois, il ne faut pas nous appeler le 28 pour un débarras le 30. Ça va être compliqué.
Ouais.
Il faut un tout petit peu anticiper. Mais grâce aux dons, ben, on arrive aujourd'hui à ce chiffre d'affaires absolument extraordinaire. Puis on fournit du travail aussi.
Exactement.
À celles et ceux qui sont dans ces murs et on permet de la réinsertion professionnelle.
Exactement. Et puis l'avantage ici, c'est que si jamais l'émission est trop courte et que j'ai besoin de meubler, j'ai tout ce qu'il faut derrière. Donc c'est très bien. On rappelle que la Renfil, c'est ici à Plan-les-Ouates, mais c'est aussi à Mérin. Et puis les 5 magasins de seconde main du CSP à Genève, ce sont du côté de Chênebourg, Plein-Palais, Paquis, Jonction, Eau-Vive.
Bravo.
C'est ça. Hein. Ouais, très bien. Voilà, comme ça, vous pourrez courir chiner en même temps que vous écoutez les décodeurs. D'ailleurs, c'est le temps de commencer à jouer et chanter. C'est parti.
Youhou.
Hello darkness, my old friend. Bon réflexe d'Olivier Magarotto. Et bonne tonalité, très fort ce qu'il vient de faire. On va partir sur The Sound of Silence de Simon & Garfunkel par nos décodeurs, évidemment. Olivier, à vous, maestro. C'est Thierry qui commence.
Salut la foncité, t'es mon ami.
C'est traduit, évidemment.
J'aimerais te causer aussi, parce qu'une vision doucement rampante a planté des graines pendant que je dormais. Et la vision implantée dans mon cerveau reste encore dans le son du silence.
Pascal
Vincent. Et donc, je suis un peu dur d'oreille. Est-ce que tu pourrais répéter? Articule bien pour que je comprenne. Tu peux même le gueuler dans mon oreille. Quand mes yeux te voient garder par l'éclair d'un néon qui frôlait la nuit et touchait le son du silence.
Julie Conti.
J'ai revu un très vieil ami. Ça faisait 10 ans, il avait pris un gros coup de vieux et 20 kilos en plus. Il avait fait une carrière comme chauffeur de bus. Et les gens écrivent des chansons que l'on ne partage jamais. Personne n'a osé perturber les sons du silence.
Oui, format.
Je comprends pas les critères de beauté. En plus, ça fait que de changer. Pourquoi être belle à l'intérieur si personne rentre à l'intérieur? Mes mots sont tombés comme des gouttes de pluie silencieux et ont résonné dans les pluies du silence.
Olivier Magarotto au piano, Lady Coder à la voix. J'arrive quand même à avoir la larme à l'œil avec les bêtises que vous racontez. C'est la preuve que c'est une bonne chanson, ça.
Ce sont des traductions
pures. Oui, pures et simples, bien sûr. Il y avait quand même un couplet plus vrai que les autres, Alain Bol. Lequel?
Ben, Thierry Romanon, c'est en polyglotte. Je vais voter pour Thierry Romanon.
Mais vous avez raison. Alors, vous m'avez dit, avant de préparer cette émission, que vous écoutez les décodeurs à partir de 17h30. Vous écoutez en différé. Vous écoutez quoi comme musique, moi, j'ai envie de savoir?
À 5h du matin. 5h30.
À 5h30 du mat.
5h30
du mat. Je pensais
en ma salle de bain.
Là là. Donc, ouais, vous avez le direct, mais que la deuxième partie, en fait.
J'ai que la deuxième.
Vous avez jamais entendu les décodeurs dire bonjour?
Non, j'ai jamais entendu lire que
ça. Et la musique, vous écoutez de la musique un peu des fois ?
Assez peu. Je suis branché info. Je suis un peu nul de ce côté-là.
Bon, on est là pour vous.
Ouais, si la chanson française, oui.
Quand même.
Mais oui, après vous pouvez m'embarquer chez les Beatles, les Rolling Stones. Enfin voilà, des vieux trucs de votre maman.
Ah tiens, on y revient souvent.
Ouais. J'insiste un peu parce que.
D'ailleurs, franchement... à propos de ça, non. Bah ouais, Simon & Garfunkel, ça pourrait être.
Bah ouais, eux oui. Ouais.
Eux oui, eux ça passe très
et
bien.
Et surtout chanté par Thierry Romanin.
Évidemment.
Je m'en souviendrai.
En français, on n'oubliera jamais. Très bien, et c'est un sixième point pour Alain Bol, très très joli. Le moment du défi de l'invité. Alain Bol qui se corrige toujours pendant les émissions pour ne pas griller les informations qu'il va lui-même donner dans ses défis. Alors cette fois, vous pouvez, c'est votre défi du jour.
Alors, qu'est-ce qu'une râpe à bouloche ?
pour enlever les pulls.
C'est les pulls, c'est les trucs c'est pour les pulls. Sur les pulls, ouais.
Trop
fort.
Allez.
La râpe à bouloche, effectivement, ça sert à enlever
les bouloches. La description est dans le nom, quoi, quand même.
Moi, j'ai appris ça quand j'étais ado, on voyait les froufrous, il y avait Marie Goron qui parlait sur les pulls avec bouloche.
Alors, j'ai choisi ce défi-là parce que j'ai croisé des gens à qui je disais mais râpe à bouloche, puis les gens me disaient mais c'est quoi ce truc, à quoi ça sert.
Oui, il faut que ce soit dans le contexte.
Voilà. Alors, dans le contexte ici, à l'atelier revalorisation textile, la râpe à bouloche est utilisée pour donner une seconde jeunesse aux pulls qui arrivent et qui sont boulochés. Et nous avons vendu, il fut un temps où on vendait des râpes à bouloche, parce qu'on faisait un carton avec ça. Depuis, il y en a qui se sont mis à une version électrique de la râpe à bouloche, c'est nettement moins glamour, mais on n'en vend plus. Mais les râpes à bouloche, sympa. Et très efficace.
Il y a la râpe à bouloche et il y a Diams qui est la râpe à boulette. Voilà, pour la référence.
Deuxième jeu de mots de la semaine, c'est un festival.
C'est un festival.
Quentin s'y met, on est
festival. Excusez-moi, ça doit être parce que j'ai fait des fois les décodeurs, ça forme. Hein. C'est une bonne école. Bref, bon, bah, ce point, il vous échappe, mais on me dit dans l'oreillette que si la VAR intervient, vous pouvez quand même obtenir le point. Les décodeurs, on en pense quoi? Est-ce qu'on lui...
Oui.
C'était quand même son anniversaire cette semaine.
Ouais.
Allez, on lui offre, ça fait 7 points pour Alain Bol.
Oh là là!
Nous aussi, on aide notre prochain.
Ouais, c'est une jolie bouloche, merci beaucoup.
On voit que vous entretenez un lien.
Il y a un lien presque perfis. Ouais.
Je peux quand même lui balancer un truc dans la tronche à ton père ou pas ?
Oui, bien sûr.
Oui, parce que je me suis renseigné sur le plus jeune étudiant de la Terre au monde de la Terre à l'université. Et j'ai appris que le record est détenu par un monsieur qui s'appelle Michael Kearney, et qui a été à l'université sud d'Alabama. Il est rentré à 8 ans et il a obtenu son diplôme à 10 ans. Donc c'était possible.
Donc par rapport au jeu d'hier où on parlait de
d'hier avec 8 ans. Oui, c'était long pour un jeu d'hier.
Ouais, je suis d'accord. Prochaine fois, attendez pas 24 heures pour me dire, y a pas de souci. mais très bien. Donc ça fait sens. Vous aviez raison, c'était pas si jeune que ça, 8 ans, c'était plausible. Quoi.
Et lundi, l'autre écoute. Ouais. Ça, non.
Pour montrer qu'il a raison, il reviendrait même 6 ans plus tard.
Il a humilié.
Et pardonnez-moi, vraiment pardonnez-moi. Bon, Alain Bol, vous êtes directeur du CSP Genève. On parle des choses qui sont faites, des choses qui vont dans le bon sens. On doit aussi dire les termes à un moment donné. Il y a trop de pauvreté dans notre soi-disant riche Suisse. J'étais à l'étranger encore récemment, on m'a redit pour changer, là-bas vous êtes riche. Environ 13,5% de la population est touchée par la précarité. Pardon, c'est un mot qui m'énerve tellement, j'arrive plus à le dire. Les nombres d'aides d'urgence accordées par le CSP Vaud ont doublé. Le vestiaire social à Genève, vous le savez bien, il a connu une hausse de 20% du nombre de distributions d'habits aux plus démunis. Les fonds de solidarité se sont retrouvés à sec. Pourquoi cette dégringolade ces dernières années ? C'est pas uniquement le Covid qui explique ça, j'imagine.
Non, allez, c'est pas uniquement le Covid. C'est vrai que le Covid est passé par là. C'est vrai que le Covid a eu un effet et a rendu visibles les invisibles, des personnes qui nous sollicitaient peu. Maintenant, je pense que c'est à personne que je vais expliquer que les loyers ont augmenté, que les prix de l'énergie ont augmenté, que les primes d'assurance maladie ont augmenté, que le coût du panier de la ménagère a augmenté. Globalement, face à toutes ces augmentations, c'est quand vous êtes, même avec un salaire minimum, quand vous êtes confronté à toutes ces hausses, comment vous faites ? Vous faites des choix, vous vous dites ok, même si je sais que je vais solliciter un subside d'assurance maladie, ça va pas suffire, je fais le choix d'une franchise à 2500 francs parce que je joue en me disant ok, voilà comment je vais pouvoir faire des économies. ben c'est un pari sur votre santé. Donc non, il y a toute une série de facteurs qui font que la vie, et en particulier à Genève, est extrêmement chère. Donc oui, cette hausse de la précarité, elle nous inquiète, elle frappe les gens qui nous sollicitent. Bah, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est pouvoir mieux loger ces personnes. On a des marchands de sommeil qui abusent largement d'une situation de précarité en matière de logement, qui taxent des personnes 500, 600 francs pour un matelas dans un studio. Ah ouais. Enfin, voilà des situations de crise qui sont inacceptables. Donc il faut se battre pour que les choses changent.
Mais Alain, pourquoi, malgré cette réalité qui est assez crue, on a encore et toujours cette image d'une Suisse qui brille ?
Mais parce que les gens connaissent la Suisse à travers UBS, Roche, Novartis, enfin le pays des banques.
Est-ce qu'on parle pas aussi de ce qui va mal ?
Le nombre de voitures, les gens quand ils viennent de l'étranger, ils regardent notre parc de voitures, ils se disent mais comment ça se fait qu'ils roulent avec des voitures aussi chères? Bah parce qu'il y a des gens qui prennent des leasings à des prix complètement dingues et qui s'endettent. Voilà. C'était quoi la question?
Non, ben c'était une bonne réponse. C'était un début de bonne réponse, très bien. Ça me paraît assez clair. On va continuer de développer. De toute façon, on a toute la semaine, c'est ça qui est l'avantage avec les décodeurs. Très bien, merci pour ce portrait, ma foi, réaliste, dur mais réaliste, de cette Suisse qui n'est pas si rose. Et oui, les amis, on continue. Les décodeurs, nous sommes à Plan-les-Ouates dans le canton de Genève, plus précisément à la Renfil Brocante Solidaire, où aura lieu le jeudi 19 juin un défilé de mode à base de vêtements de seconde main. De quoi réfléchir à notre consommation d'habits, de quoi réfléchir aussi à notre style. Ce qui est sûr, c'est que le rappeur français MC Solar, lui, il se dit victime de la mode. C'est en tout cas le titre de son morceau sorti en 1991. Quelle belle année! C'est un extrait de son fameux album Qui sème le vent récolte le tempo, et notre programmatrice Nadia Mythique propose de l'écouter tout de suite sur RTS Première. MC Solar, victime de la mode.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une bique. De la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tac, tic, attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui beat. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Jimmy J.
Eddie Goddard à la Renfille, ici à Plan-les-Ouates, canton de Genève. Une question sous forme de sketch. La question, attention, ça ne rigole pas, Alain Bol. Qu'est-ce qu'un ophicléide? Ophicléide. Ouais, j'ai eu la même réaction que vous. On va écouter deux propositions. La première est signée Julie Conti. Elle est accompagnée par Thierry Romanens et par Format. On les écoute. Ophicléide.
Alors, il s'agit d'un extrait d'un manuscrit maudit, Mythos Lexicon Interditum, écrit vers 450 avant le réveil féministe. Les personnages, c'est un ophicléide, créature mythologique indécrottable, un mix entre un satyre et un forum internet de trolls masculinistes frustrés. Ça sera donc Thierry. Ensuite, on aura Athéna, déesse de la sagesse et de la justice, jouée par Format, et Artémis, déesse de la chasse et de la virginité, jouée par moi-même, bien évidemment. Nous sommes dans une clairière sacrée. Artémis polie une dague. Athéna lit un papyrus. Surgit Ophicléide, bedaine, arrogante, regard suintant et libidineux.
Eh mais salut les déesses, mais quelle assemblée d'ambroisie à croquer! On dirait deux amphores pleines de désirs.
Ah non, pas lui.
Encore un ophicléide. Ah mais vous pullulez comme les pustules d'Héraclès et vous êtes plus lubriques que les satyres.
Non mais oh, ça va, ouais, ouais, notons le personnage mythologique. Hein. Et c'est pas parce que les satyres se frottent la colonne à toutes les toges qu'on est tous comme ça. Non mais avec ce mouvement égo-quacoué, on peut même plus faire un compliment à une vestale sans prendre la colère des dieux.
Mouvement égo-quacoué, tu veux dire MeToo?
Bah ouais, c'est du latin, ouais. Et t'as vu, ils connaissent tous égo-quacoué. Le grand mouvement des Danaïdes et des vestales frustrées. Non mais elles ont tout un truc à raconter maintenant. Non mais même la Gorgone m'a dénoncé, alors qu'elle a littéralement un regard pétrifiant. Mais qui harcèle qui? Je me demande qui harcèle qui, hein?
Tu t'es frotté à une statue de Gaïa en prétendant honorer la Terre.
Ouais.
T'as interrompu une pitié pour lui montrer ton gros zéphyr.
Mais je suis un être passionné. Je... Quoi? Nous les ophicléides, on est les derniers vrais mâles de l'Olympe. Les héritiers d'Apollon. On n'est pas comme ces nouveaux demi-dieux à Poli, là. Poli qui demande avant de caresser une cheville. C'est la fin du désir libre. Bientôt, on devra signer un papyrus avant de regarder une nymphe de face. Hein?
J'en ai parlé avec Zeus. Et on est d'accord, ça peut plus durer. Tu vas devoir suivre un stage de déconstruction pour Ophicléide.
Quoi? Non, mais attends, mais c'est une malédiction féministoïde. On va disparaître. La séduction. On va faire verdir. On va faire... Toi, j'en perds mon égo coiffé. On va faire disparaître la séduction. On va tous devenir des centaures végétariens, véganes.
Non, non, on va juste apprendre à ne pas confondre désir et domination.
Ok.
Ophicléide. C'était la version Julie Conti, voici celle de Pascal Vincent avec Thierry Romanens.
La naissance a lieu le 25, c'est ça?
Oui, avant-hier.
Félicitations, donc je suis officier d'état civil.
Bonjour.
Et je vais procéder à l'enregistrement. Alors, est-ce que je peux vous demander le prénom de l'enfant pour commencer?
Ophicléide.
Pardon?
Ah, désolé, non, j'ai cru que vous me posiez des questions.
Oui, je vous demandais le prénom de l'enfant.
Ah, Ophicléide.
Ah, c'est le prénom?
Bah oui, oui.
C'est joli.
Bof.
Non. Écoutez, l'ordinateur le refuse.
Comment ça?
Bah non, ça veut pas. Hein. Ça me met choix refusé, prénom non homologué. Voilà.
Pourtant, nous, je veux dire, sa mère et moi, on l'a accepté.
Oui, sauf que c'est pas vous qui avez le dernier mot, vous voyez, c'est monsieur. Si l'ordinateur dit non, c'est qu'il y a une raison. Alors voyons, c'est un prénom grec, Ophicléide?
Oui, en quelque sorte, oui, ça signifie serpent à clé.
Ah bon?
Oui.
Mais ça, c'est un peu étrange pour un prénom, serpent à clé, monsieur.
Oh non, pas trop. C'est le nom d'un instrument à vent de la famille des cuivres.
Oui, bah alors cherchez pas, c'est pour ça que ça refuse.
Ah,
vous êtes musicien, vous et votre femme?
Non, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout, non. Aucune oreille, aucun talent pour ça, non. Mais c'était pour montrer quand même qu'on s'intéressait quand même, qu'on était ouvert d'esprit, vous voyez, quoi.
Oui. Il a pas un deuxième prénom, cet enfant?
Si.
Ah, voilà, parfait. Mais écoutez, ce que je vous suggère, monsieur, c'est de prendre le deuxième prénom comme prénom principal, ok?
Ok, oui.
Alors, je vous écoute. Prénom de l'enfant?
Alors, Tambourin. T-A-M-B-O-U-R-I-N.
Non, mais vous le faites exprès!
Et quoi, c'est pas un instrument de la famille des cuivres, le tambourin?
Mais peut-être, mais c'est pas un prénom à donner à un enfant, monsieur! Et pourquoi pas Guimbarde ou Grosse Caisse, pendant qu'on y est?
Alors, on y a pensé. Grosse Caisse, ça sera pour la petite sœur le jour où elle arrivera.
Oui. Mais vous ne pourrez pas non plus. C'est interdit, monsieur, de donner des noms d'instruments de musique à ses enfants.
Mais pourtant, vous aviez trouvé joli au Fickley.
Oui, mais ça, c'était avant que je sache que c'était un instrument avant de la famille des cuivres.
Oh là là, mais c'est compliqué.
Bah alors, c'est vous qui compliquez un peu, si je peux me permettre. Bah écoutez, si vraiment vous y tenez, vous pouvez faire un recours auprès de mon supérieur hiérarchique, mais je vous avertis, hein, il n'est pas commode.
Ah bah alors, c'est pas grave, je fais recours.
Bon, alors je vous écris son numéro ici, vous appelez cet après-midi à partir de 14h.
Ok, et je demande monsieur ?
Monsieur Tar, Guy Tar.
Quel beau mardi.
Oh là là.
Alors, Ophi Cléhide, Alain Bol, nous avons soit un personnage macho de la mythologie, c'était les derniers vrais mâles, disait Julie. Pascal nous dit que c'est un...
Regardez comme ça.
Parce que je suis poli, c'est tout, je vous regarde quand je vous parle. instrument avant de la famille des cuivres, nous dit Pascal.
L'instrument avant me paraît peu probable.
Moi, je trouve qu'il paraît tout à fait probable.
Oui, mais on ne contredit pas son papa.
Oui, c'est vrai. J'ai avoir des problèmes avec vos vrais enfants.
Bon, okay.
Que je salue.
Bien, très bien. Alors.
Vos enfants, je les salue.
Ah oui.
À force d'essayer de prendre leur place. Là. Et donc, instrument avant, vous avez
dit ? Oui, allez. Oh,
c'est
pas vrai.
C'est comme ça que ça sonne, un amphiclid. Eh oui.
Ça, c'est de la transition.
Eh oui, un instrument avant de la famille des cuivres. Un gros instrument, j'ai vu la photo, avec des clés, un instrument à embouchure avec un son très grave, on l'a entendu. Une
justesse... Donc toi, Fantin, vous dites, Fantin, vous dites aux auditeurs, vous avez vu la photo.
J'ai vu la... J'oserais m'avancer et dire, j'ai vu la photo d'un officier.
Ah, pas...
Je suis prêt à prendre ce risque, ça peut choquer.
C'est le David Vincent de l'Ophicléide, il les a tous.
Et ça nous fait un 18 millième point, c'est le 7e pour Alain Bol. Qu'on peut ça de temps.
Bravo.
Un petit dico bonus, Alain Bol, il paraît que vous aimez bien les vins, particulièrement les vins nature produits en biodynamie. Voici donc une liste que je vais vous donner de 10 noms de vins, il y en a 9 qui existent vraiment. Et avec les décodeurs, vous devrez me dire lequel n'existe pas.
Wow.
Vous me laissez juste finir la liste et ensuite vous me proposez une réponse. Nous avons le Advinam, le Toubu hors note Toubu.
Oh oui.
Vous allez être surpris. Hein. Le Tu vin plus aux soirées. Oh. Le Va te faire boire. Le vin de merde. J'y peux rien, j'ai... Voilà. Le Fat Bastard. Le Oups. Le Alain Verse.
Oh.
Le Marilyn Merlot.
Oh.
Et enfin, le Petit Chieur. Il y en a un seul qui est faux. J'aurais dit plus, mais il y en a qu'un seul. Il y en a un, je vous jure qu'il y en a 9 qui existent.
C'est quoi le deuxième ?
Le deuxième, c'était Tout bu or not tout bu.
Ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Bah, le il connaît, on dirait.
Le Tout bu or not tout bu, c'est bon. Soirée me paraît, même si c'est un très bon titre, je pense suspect.
Lequel il existe,
le tu vin plus aux soirées.
Ou le vin de merde, c'est un peu chaud.
Non, il existe, non, il existe. Je crois qu'ils mettent de la merde.
VDM, ils mettent VDM.
Mais par contre, le petit chieur, non ?
Le petit chieur.
Il faut lire dans ses yeux, Pantin, on voit dans ses yeux, ça brille quand
le petit chieur, il paraît loin, mais c'est un piège.
Pascal Vincent, c'était quoi la proposition ?
Moi, je pensais à tu vin plus aux soirées.
Ouais, parce que ça, on va pas. Ça donne pas envie d'acheter la bouteille.
Ah, mais moi, je l'achète direct.
Super titre.
Des... piège. Non, les gens qui sont dans les vins nature sont capables de ça. Donc,
Ils connaissent. Mais Fat Bastard.
Ouais, il vient d'où le Fat Bastard ?
Fat Bastard, ça fait plutôt bière artisanale.
Ah, ouais.
C'est vrai.
Ouais, puis je. Non, mais en anglais.
En anglais ?
Non, pas en anglais.
Donc, c'est celui-là, vous pensez ?
Ou le petit chieur.
Pas en anglais.
Donc, Fat Bastard, vous diriez. Ouais, c'était pas celui-là. C'était le Alain Verse.
Mais non.
Là, c'est vous qui l'avez invité.
Il est content.
Et franchement, on rachète des vignes et on le lance.
Je suis très content.
Il est super.
Je suis là.
Ouais.
Il était peut-être un peu téléphoné. Hein.
Bah, disons, c'était un peu personnalisé, ouais, mais effectivement. Donc, si jamais tu viens plus aux soirées, c'est dans le sud-ouest de la France, principalement du Malbec, là-dedans, voilà.
Okay. Mais ça c'est du Tarn, non ?
Alors ça, j'ai pas la région, mais vous avez l'air de savoir mieux que moi.
Sud-ouest.
Tout bu or not tout bu, c'est Imel, Syrah et Carignan. Non, il y a tout. Advinam, nature biodynamique, comme vous l'aimez, le Advinam. Le vin de merde, c'est effectivement Loc de Grossillon.
Ils ont donné ce nom volontairement provoque pour dénoncer un peu le snobisme du milieu viticole. Fat Bastard existe bien, c'est un vin français d'ailleurs. Ah oui. Il est né d'une erreur de dégustation où le vigneron s'était exclamé « c'est un vrai Fat Bastard ». Voilà. Le Marilyn Merlot, ben voilà, tout est dit, c'est un cépage Merlot. Et puis le petit chieur, c'est un vin rouge du Languedoc. Okay. Voilà. Donc voilà, si vous voulez tester, faites-vous plaisir. Celui-là, je vous le donne pas parce que sinon on va me traiter, on va quand même me dire que je favorise un petit peu.
C'est déjà fait.
Ouais, c'est déjà fait. On reste à 7 points, mais c'est une belle première demi-heure, une première demi-heure des décodeurs qui est passée follement vite. C'est déjà l'heure du flash info.
8 dans ton oreille.
8 ? On me dit 8 ?
8 quoi ?
Alors c'est vous qui donnez des points plus en fait. Très bien, l'équipe me suit. Ça fait 8 points. Ouais, non, ça me va. Mais je me plaindrais de ça. Première demi-heure donc qui est passée vite, disais-je. Oui, c'est déjà l'heure du flash info. On vous retrouve après ici à la Renfile à Genève.
L'heure avec RTS Première.
Il est midi sur RTS Première.